pas l'habitude d'être amplifié, donc excusez-moi si des fois je parle fort sans que ça soit nécessaire, c'est une voix de Marseillais, voilà, c'est tout. Donc le thème aujourd'hui, ça fait suite à ce que donc, le pasteur Bodzi a prêché jusque-là. Il a parlé surtout de messages de défense de la foi avec est-ce que la Bible est fiable ? Est-ce que la Bible parle encore aujourd'hui ? Hier, il a fait tout un argumentaire pour montrer qu'il y a des fausses idées sur la Bible. Et à chaque fois, il a répondu tout simplement, et ça me semblait évident, tout ce qui a été dit. Donc, je reprends un peu des idées qu'il y a eu dans ces messages en parlant de la Bible qui est un livre de vie. Voilà, donc je vais être simple, mais à la fois, je pense que les versets qu'on va lire et ce que je vais dire, on peut tous les vérifier, les expérimenter. Et si vous avez envie de lire aussi les textes, vous pourrez dans vos Bibles, mais je les citerai au fur et à mesure avec les références. Alors la Bible, livre de vie, j'aime bien, je fais attention aux mots, je ne sais pas, pardon, ce que ça signifie pour vous, la Bible, livre de vie, c'est un livre qui donne la vie, c'est ça qui vous vient à l'esprit, ou pas? Oui. Il y a un autre sens, c'est un livre pour la vie. Alors, je vais essayer de garder votre attention malgré les mouvements. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Sinon, ne vous inquiétez pas si les choses n'apparaissent pas. Moi, je crois, Jésus, il n'avait même pas de micro. Il était sur une montagne. Il y avait des milliers qui l'écoutaient. Il n'y avait pas de PowerPoint. Il n'y avait pas d'électronique. Quelle grâce! Alors oui, on se sert de l'électronique, mais moi, je n'aime pas faire paraître les images. Je parle. Voilà, je suis de l'oralité. Donc l'avantage, c'est que me couper la parole, c'est plus compliqué. Les mises à jour sont faites à l'avance, donc ne vous inquiétez pas, même s'il y a des bugs, ça c'est vrai. Voilà, les deux sens, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La Bible, livre de vie. Les deux sens, c'est un livre pour la vie, un livre dont on se sert, qui est utile pour notre vie. Et puis après, on verra le livre effectivement qui donne la vie. On verra quel genre de vie il est question. Livre pour la vie, je vais d'abord prier. Et ensuite, on partagera cette exhortation. Seigneur, tu es un Dieu vivant, et je te prie que ces paroles soient vivantes comme ta parole est vivante. Seigneur, nous te remercions de nous rendre attentifs. Il a été chanté, prié, ouvre les yeux de mon cœur. Ben oui, ouvre les yeux de notre cœur qui parfois est endurci, à des murailles qui s'élèvent contre chaque argument, mais... Seigneur, tu sais, comme à Jéricho, faire tomber les murailles, mais surtout, tu sais toucher des cœurs simples, comme des enfants. Alors, rends-nous simples, accessibles à ce que tu as à nous dire, parce qu'il n'est pas question là d'une joute d'idées, d'établir que nous sommes meilleurs ou nous avons raison, simplement, à ce que quelqu'un qui a soif puisse boire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, la Bible, est-ce que c'est un livre pour... dire « Ah ben moi j'ai la Bible » ou « J'en ai même beaucoup ». Des fois les gens disent « Oh j'ai pas besoin, j'en ai plein ». Bon, très bien. Mais est-ce que vous la lisez ? Non, enfin... Et pour d'autres, c'est un livre de décoration. J'ai une belle Bible qu'on m'a offert. Elle est là, regardez. Pour mon mariage, elle est blanche. Enfin bon, on a ça. Est-ce que c'est un objet décoratif ou un livre vivant ? Ben, j'ai bien aimé une chose que le pasteur Bodzi, il a dit « Non, la Bible, c'est un livre de chevet ». Qu'est-ce que ça veut dire, un livre qu'on met à son chevet? Ben, c'est un livre qu'on a à portée de main, qui est disponible et qui peut-être, si on le met à notre chevet, c'est qu'on pense que c'est quand même un livre important, un livre intime. Mais je crois que c'est un livre qui répond au quotidien à nos besoins. Donc on va voir de quels besoins il est question. Parmi les besoins, moi, je vais dire tout simplement et des réponses aux questions sur la vie, sur le monde... Voilà, le premier livre qu'on a dans ce livre-là, parce que c'est un recueil de livres, en fait. La Bible, c'est un recueil de plusieurs livres. Le tout premier, c'est le livre de la Genèse, en hébreu, Bereshit. Genèse, c'est le commencement. C'est toutes les origines de tout. Donc, dans ce livre-là, vous voyez l'origine de l'univers, de la terre, de l'homme, de la femme, de leurs relations, du mal, du bien, de la souffrance... et de la mort, des questions que les gens se posent. D'où on vient, où on va, enfin, c'est des grandes questions. Mais ce n'est pas aujourd'hui que je vais répondre, ça peut faire l'objet d'une conférence en soi, sur la création et tout ça. Mais en tout cas, premier verset du premier livre de la Bible. On n'a peut-être pas besoin de laisser ça éclairer, écran noir. On peut ? Ben justement, écran noir, c'est très bien. Genèse 1:1, et c'est de là que vient le nom même du livre, parce qu'en hébreu, c'est ça, le premier mot d'un livre, c'est le titre. Et donc, quand il y a Genèse Bereshit, ça veut dire au commencement. Au commencement. Premier verset de la Bible, Genèse 1:1, au commencement. Je pourrais m'arrêter là, mais la suite est intéressante aussi. Au commencement, Dieu, dans l'ordre. Dieu était là, au commencement. Et au commencement, Dieu créa. En hébreu, bara. L'homme est capable de créer, on a de la créativité, mais nous, on ne fait que travailler à partir de matériaux existants. Lui, de rien, il fait apparaître. C'est l'hébreu bara. Alors, quand on comprend que dans ce livre, on a les origines, il y a une chose en particulier dont on aime bien parler. Je pense qu'il y a des magazines aujourd'hui pour vous dire ce que vous êtes, ce que vous avez. Vous voyez, tous ces livres sur vous, des livres sur moi, sur ce que je suis, sur ce que je ressens, des livres de psychologie, des livres, toutes sortes de choses. Ben, la Bible nous parle aussi de ça, de ce qu'on a à l'intérieur. Pas simplement des origines, mais de ce qu'on a à l'intérieur. Alors, juste parce qu'on est français, des références. Le petit prince de Saint-Exupéry, il disait « On ne voit bien qu'avec son cœur ». Pour dire les yeux, les choses superficielles, on ne voit bien qu'avec son cœur. Le monde autour de nous nous dit, mais finalement, dans tout ce qui se passe, fais confiance, fie-toi à ton cœur. Le philosophe dit, l'homme n'est bon. C'est la société qui le corrompt. Voilà des pensées qu'on entend aujourd'hui. Alors juste, je ne vais pas débattre philosophiquement. Je vais juste répondre ce que Jésus répond sur le cœur. Eh bien, Jésus dit, donc c'est le Nouveau Testament, hein, ce n'est pas l'Ancien Testament dont on pense que c'est le livre qui fait peur, le livre de la colère, le livre du châtiment. C'est Jésus, donc quand même, globalement, les gens savent que Jésus est bon, il aime les enfants, il fait du bien aux gens, il guérit. Donc on se dit, ben, puisqu'il est tant rempli de bienveillance et de gentil, il va dire quelque chose de gentil sur nous, non ? On aime bien qu'on nous dise des choses gentilles sur nous. Mais sur l'intérieur, en tout cas, lui, il dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude. Alors la liste est le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent, non pas de la société, mais du cœur, du dedans, et souille l'homme. Alors la société, elle est à l'image de ce qui la compose. Évidemment que la société corrompt les pensées que véhicule la société, mais on a ça en nous. Si vous vous enfermez seul dans une caverne, ce que font les gens parfois dans le monastère, pour se tenir à l'écart, on croit que ça nous améliore. Le problème, c'est qu'on a emmené avec nous le virus. On peut être tout seul, sans que personne nous dise quoi que ce soit, on est déjà comme ça. On a besoin de personnes pour nous apprendre à être comme ça, parce que c'est en nous. Voilà. Alors, la philosophie est intéressante, mais elle est théorique, voire utopique, de dire, ben non, des théories qui disent, ben si on pourvoit à tous les besoins matériels de l'humanité, on va devenir bon. C'est pas vrai. Les sociétés qui ont développé le matérialisme, le bonheur par la possession matérielle, je citerai aucun pays, mais le pays ne s'est pas amélioré, loin de là. Les relations sont empreintes d'égoïsme, je ne vais pas faire la liste. Donc, le constat que fait Jésus-Christ et sa déclaration, je pense qu'elle correspond bien mieux à l'expérience humaine, ce qu'on voit au volant de sa voiture, ce qu'on voit dans les familles, ce qu'on voit dans les écoles, ce qu'on voit dans les crèches, ce qu'on voit dans le monde. Mais de dire que le cœur il est méchant et que c'est de là que vient le problème, quelles que soient les religions, quel que soit l'état économique du pays, ça montre toujours que le problème est là. Je pense que la Bible correspond bien plus à l'expérience humaine. La Bible s'appelle elle-même un miroir. On a ça dans le Nouveau Testament. Pas un miroir du visage, un miroir du cœur. Elle va nous montrer ce qu'on a à l'intérieur. Et ce n'est pas un miroir déformant, ni flatteur, vous le savez, hein, les déformants, c'est soit flatteur, vous avez besoin d'être aminci, et ça vous montrera un corps magnifique. Ou déformant dans le mauvais sens non plus, qui exagère et qui nous transforme en espèce de patate. Donc, la Bible n'est ni l'un ni l'autre. La Bible est fidèle et elle nous montre vraiment ce que nous avons à l'intérieur. Donc, on a vu le livre des origines, livre qui nous décrit nous, tels que nous sommes réellement, un livre qui peut nous donner le sens de la vie. Voilà, on n'est pas né seulement pour grandir, manger, se réjouir, se faire plaisir ou pas, ou souffrir. Il y en a qui disent la vie, ça n'est que souffrance. On n'est pas né pour tout ça. Il y a un autre sens. Ce n'est pas aujourd'hui l'objet de cette conférence, mais oui, il y a un sens déjà à être reconnaissant à l'égard de Dieu qui nous a donné la création, qui nous a donné les fruits, qui nous a donné les saisons, qui nous a donné tout ce dont on vit, qui nous a donné la vie, tout simplement. Personne ne peut dire « je me suis fait naître ». Non, on a besoin que la vie nous ait été transmise, on lui doit tout. Donc, on ne va pas approfondir ça, mais être reconnaissant déjà, rendre gloire à Dieu, oui, effectivement, c'est un des sens de la vie. Un livre qui donne aussi la fin, j'aime bien connaître la fin de l'histoire. Donc, fin de l'histoire de quoi ? De l'humanité, de la Terre. Est-ce que nous sommes appelés individuellement à simplement disparaître, mangés par les vers ? Est-ce que nous irons tous au paradis, comme ça a été chanté autrefois ? Est-ce que nous allons plutôt nous réincarner, comme dit la métempsychose, en animal ? Plus ou moins gentil, plus ou moins... je ne sais pas si toutes les vies d'animaux sont très enviables. Ou réincarnation à un autre être humain. Le problème, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a le karma. Donc, on croit que la réincarnation, c'est d'aller toujours de mieux en mieux. Le karma dit que si vous avez mal agi, c'est plutôt en pire. Donc, si c'est pour revenir à pire dans la vie suivante, qu'est-ce que ça va être ? Donc, la Bible, elle nous dit simplement, je ne défends pas ce qu'elle dit, je le crois, elle le dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. La Bible donc des réponses à des questions fondamentales de nos vies. La Bible, quand on dit livre de vie, livre de chevet, elle va nous aider à vivre dans ce monde. Alors aujourd'hui, on entend « fait » ce qui te plaît. Fais ce dont tu as envie. Arrêtons les règles, arrêtons les... Fais ce qui te plaît. Bon, il y a quelques jours, il y a un jeune adolescent de 15 ans qui a massacré une vieille personne de 80 ans à coups de perceuse. Et après, bien sûr, il a été arrêté. Pourquoi as-tu fait ça ? Je me suis senti poussé à le faire. Fais ce qui te plaît. Fais ce qui te plaît. Toi, tu as des attirances pour les enfants. Fais ce qui te plaît. Mais non. Non. Quand on sait ce qu'il y a dans le cœur humain, fais ce qui te plaît, c'est la catastrophe dans une société. Donc les règles que Dieu nous a donné pour ne pas faire parfois ce qu'on aurait envie de faire, ben c'est ça qui nous préserve dans le vivre ensemble. C'est ça qui nous préserve nous-mêmes d'horreur. Si on fait ce qui nous... Je ne sais pas vous, mais est-ce que des fois vous avez des pensées, vous vous dites, si je passais à l'acte, réfléchissez un tout petit peu. Quand on vous fait une queue de poisson, est-ce que vous, messieurs, vous avez une batte de baseball d'un coup à la main, dans votre tête, bien sûr, on ne passe pas à l'acte. Moi, j'ai souvent une batte de baseball dans ma main, dans ma tête. Comment les gens conduisent ? Je reconnais que j'ai cette pensée qui, je me dis, c'est pas possible. L'injustice, la colère nous amène à avoir des pensées que si on passait à l'acte, mais vous imaginez le chaos sur cette terre si on fait ce qui vous plaît, ce qui vous passe par l'esprit ? Je pense que là, on ferait bien d'aller tous se cacher chez soi. À force de tout remettre en question, le monde a totalement perdu le nord. Totalement. On ne sait plus où on va. Alors, juste un petit exemple, mais j'ai lu ce matin, je ne l'ai pas cherché. Il y a un psychiatre français, psychiatre militaire, qui a écrit un ouvrage en 2 ou 3 tomes sur la folie de Jésus. la folie de Jésus. Alors, je me dis, comment ? Excusez-moi, mais franchement, ça ne m'a même pas mis à colère, ça m'a fait sourire. Comme Dieu se rit de ce genre d'affirmation. Quand on sait ce que Jésus a dit, quand on sait ce qu'il a fait, comment un homme peut dire la folie de Jésus sans avoir l'impression que c'est lui qui est fou ? Mais, alors j'ai voulu comprendre comment il en arrive à ça. Je m'intéresse un peu à la psychologie. Alors, je vais vous dire ça, je vous le partage, c'est pour la connaissance générale. Hein. Donc il arrive à cette conclusion en disant « c'est une folie paranoïaque que de laisser la confiance et le contrôle de notre propre volonté, de nos propres capacités à un être dit supérieur. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, pour lui, c'est de la folie, de la paranoïa. Alors, il associe plein de mots à ça. Mais que de s'abandonner à la volonté, mais comme Jésus l'a fait à la croix, par exemple, il a dit, si c'est possible d'éloigner cette coupe de moi, mais que ta volonté soit faite. Abandonner sa vie, sa volonté, à un être qu'on ne voit pas, assurément, mais dont il était certain qu'il existait. Si l'être supérieur existe, en quoi ça serait de la folie ? Ça serait plutôt de la sagesse. Depuis 1991, où j'ai accepté le Seigneur, j'ai abandonné ma volonté à de multiples reprises sur des choses que j'aurais voulu faire et que je n'ai pas fait, ou entreprendre des choses qu'il m'a montré de faire. Alors, si vous imaginez que c'est de la paranoïa, ça l'est peut-être, si ce Dieu-là n'existe pas et ne montre pas, depuis 1991, que tout ce qu'il a dit, comme on l'a vu, tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Et sincèrement, je ne crois pas être totalement demeuré ou fou. Et tous ceux qui ont expérimenté avec leur capacité intellectuelle, avec leur propre volonté, avec leur propre force, de faire confiance plus à l'être supérieur, infini, glorieux, saint, parfait, tout-puissant, que nous, dont on sait très bien qu'on tire à droite, on tire à gauche. Et on est certainement... Je préfère faire confiance à quelqu'un de plus compétent que moi. Que moi pour conduire ma vie, pour entreprendre des choses. Il me semble que ce n'est pas de la folie que de faire confiance à quelqu'un de bien plus puissant que nous, bien plus sage. Donc, tout ça pour dire, bon, vous voulez son nom si ça vous intéresse, Charles Binet Sanglé. Voilà. Vous pourriez lui écrire, lui répondre ce que vous en pensez. Non, il a, bien sûr, c'était, je ne sais pas si c'était pour provoquer une réaction, de s'attaquer à Jésus sur ce symptôme-là. Mais quoi qu'il en soit, il a effectivement fait des vagues, mais moi, je n'ai même pas envie d'aller discuter. Comme Dieu, dis ce que tu veux. Vas-y, Dieu sait qui il est, Jésus sait en qui il a fait confiance, et pour ma part aussi. Donc, pour les paroles de Jésus, eh bien, lui a dit, Matthieu chapitre 7, il a dit, « Quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison et elle est tombée. Et sa ruine a été grande. » Toutes les sociétés, toutes les utopies se sont effondrées un jour. Toutes les gloires humaines se sont effondrées. Mais ceux qui ont bâti sur le rocher, leur maison a tenu. Et c'est vrai pour individuellement, sans même parler de la société, pour soi. La maison a tenu, a traversé les épreuves parce que appuyée sur la parole de Dieu, qui est un roc solide. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Ce n'est pas des paroles en l'air que Jésus dit. Il dit, voilà ce que je vous dis, bâtissez votre vie là-dessus, expérimentez et vous verrez. Et tous ceux qui le font expérimentent que c'est un rocher solide. C'est aussi bâtir sa vie sur la parole de Dieu, c'est aussi un chemin balisé. C'est une autre image. Un chemin balisé, c'est le psaume 119 qui dit ça, versets 9 à 11. Ça s'adresse plus particulièrement aux jeunes gens. Là, c'est un jeune homme, parce que c'est un père qui parle à son fils. Mais il reste la même pensée pour tous. comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? Donc vouloir marcher dans la pureté plutôt que dans les folies du monde, en se dirigeant d'après ta parole. Et le psalmiste continue en disant « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est au contact de la parole, en se laissant conduire, en se laissant corriger, en se laissant inspirer, en se laissant modifier intérieurement, changer nos pensées, qu'on peut vivre une vie qui est sur le bon chemin. Et les religions le disent, hein, rester sur le bon chemin. Pour rester sur le bon chemin, il faut le connaître, non ? Il m'est arrivé une fois, petite anecdote, ça rallonge un peu, mais excusez-moi, ça rend ça vivant aussi. Autrefois, je faisais des colonies en tant que... tous les postes à une colonie possible, surveillant de baignade, animateur, directeur, directeur adjoint, et tout ça. Et une fois, on avait un groupe qu'on a emmené, c'était dans les Alpes, qu'on a amené faire un campement, et il fallait revenir. Et là, on était deux responsables du retour. On connaissait le chemin retour qu'on allait faire à pied, et on avait une carte. Et celui qui était le binôme avec moi était pompier. Et il a dit, je passe devant. J'ai dit, bon. Et moi, je ferme la marche. Le problème, c'était que c'était moi qui fermais la marche, qui avait la carte. Et lui, le pompier, tout empreint de connaissances, c'est lui qui ouvrait, c'était pas un bon choix. Et à un moment donné, on est à un virage, et il y a deux chemins, avec la carte. Je voyais bien que c'était à droite qu'il fallait aller, et je vois qu'il a emmené le groupe à gauche. Vous me voyez ici aujourd'hui, vous pouvez en rire, mais qu'est-ce que je fais ? Et je regarde la carte, je me dis, il y a peut-être un chemin par la gauche, parce qu'en fait, il fallait contourner une petite chaîne de montagne pour aller de l'autre côté. Donc par la droite, on allait la contourner et arriver où il fallait, et lui, par la gauche. Alors je me dis, peut-être que ça va aller par la gauche. Je ne cours pas pour l'empêcher. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on avance, je me rends compte que ce n'était pas un chemin, c'était un lit de rivière. Et au fur et à mesure qu'on avançait, ça commençait à monter, et c'était de moins en moins un chemin, et de plus en plus, rien. Seulement, on avait déjà trop marché dans la journée, en se retrouvant là. Donc, il aurait été sage de faire marche arrière. On n'a pas fait marche arrière, on a insisté en se disant, bon, ça monte, on sait que c'est de l'autre côté de la montagne, on va réussir à passer de l'autre côté comme ça. C'est vrai que ce n'était pas le bon chemin, mais on va faire comme ça. Sauf que, au fur et à mesure que ça montait, on se retrouvait sur des terres sablonneuses et ça montait comme ça. Les enfants avec leurs sacs sur le dos qui grimpaient mètre par mètre. On n'était plus sur un chemin du tout. Donc là, c'était déjà de la folie furieuse. On a insisté en se disant « Maintenant, on est presque en haut au sommet. » On est presque arrivé. Moi, je ne priais pas à l'époque, je n'étais pas chrétien. Hein, c'était une énorme... Bon. Et finalement, on arrive à un point où ça se calme un peu. Il y a juste quelques rochers, il ne reste plus qu'à passer derrière. Alors, le pompier va faire du repérage. Sauf que, entre là où on était et le rocher, pour passer de l'autre côté, il y avait un précipice. On aime les histoires, hein. Ah, on va faire demi-tour, il est 15h et il faut revenir au point de départ et faire le trajet qu'on aurait dû faire. Voilà la voie de la sagesse, merci. Faire demi-tour, mais là, qu'est-ce qu'on fait ? Effectivement, on n'a plus le choix. Il y a un précipice, on ne peut pas passer. On s'est trompé de chemin. On ne peut pas, on est juste là, on ne peut pas. Alors, on aurait pu être encore plus fou de dire « Allez, on va sauter » ou je ne sais pas quoi. Non. Mais là, il fallait redescendre au point de départ. Et on ne pouvait pas redescendre par là où on était monté parce que, je vous dis, c'était du sable, c'était impossible. Autant monter avec les quatre membres, on y arrivait. Mais redescendre comme ça, c'était impossible. Donc, en repérant, on a trouvé un autre lit de rivière qui redescendait du bon côté. C'était, je la fais courte, mais... On a choisi de passer par là. Il y en a un qui a perdu son sac, qui est tombé dans un ravin, il a tout perdu. Enfin bon. Et dans le lit de rivière, les enfants rigolaient, ils rigolaient parce que c'était rigolo de descendre, courir, sauf qu'il y avait des rochers, je vous assure, des pierres et des petits rochers qui se dans les lits de rivière qui se décrochaient et qui roulaient dans le lit de rivière où il y avait les enfants. Et quand ça arrivait, on criait, alors tout le monde rigolait et on s'enlevait du milieu. Il y a eu aucun blessé et on est revenu à notre point de départ. Merci Seigneur, quelle grâce que le Seigneur nous ait gardés. Et là, on n'avait plus que, avant que la nuit ne tombe, il nous restait 2 heures pour faire ce qu'il aurait fallu faire en une journée. Là, je vous dis, on a marché au pas de course et on est arrivé, la nuit tombée, à la colo, et le directeur a dit, vous êtes tous là, je ne veux pas savoir. Voilà, on peut se tromper de chemin, on peut s'engager sur un mauvais chemin et il ne faut pas insister. Il faut revenir à la source, il faut revenir au commencement, à la parole de Dieu. Comment ne pas s'égarer ? Ben, c'est revenir à la parole. Comment ? Et c'est pour ça que le psalmiste dit « Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Le terrain balisé, c'est la parole de Dieu. Voilà, le psaume 119, c'est 176 versets, là je parle en termes culturels, 176 versets pour un seul chapitre. Il y a 175 versets de ce chapitre qui chacun utilise un mot qui veut dire la Bible. Vous avez les préceptes, les commandements, les ordonnances, la parole. Enfin, 175 versets. Si on a compris à quel point c'est important avec ce chapitre que la parole de Dieu, voilà pourquoi les psaumes sont si importants. J'ai une autre chose à vous dire, mais là, c'est par rapport à la poésie. Et c'est Emmanuel qui m'a dit ça. Alors, je me lance, je n'ai pas tout compris. Parce qu'il y a des chiffres. Donc, il y a des chiffres, je ne suis pas fort, moi. 176, c'est 8 fois 22. Pour l'instant, c'est simple. Là, d'accord ? C'est 8 fois 22. Non, je vais vérifier, sinon je ne me lancerai pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il y a 8 paquets, dans l'organisation de ce chapitre, il y a 8 paquets de 22 versets. Et là, pour la forme poétique, c'est la poésie hébraïque. 22, c'est le nombre de lettres de l'alphabet hébreu. D'accord ? Donc, chaque bloc de 8, vous avez chaque verset qui commence par, dans l'ordre, une lettre de l'alphabet. C'est poétique. Ça ne veut pas dire, oh, vous voyez, ça, c'est Dieu qui a fait ça. Non, c'est des hommes, c'est des poètes qui l'ont fait. Le sens est divin, la forme. Dieu a utilisé des hommes qui ont fait de la poésie, mais c'est juste intéressant voilà, 8 fois 22 avec chaque fois l'alphabet. Nous, on aime bien les rimes, mais les Hébreux, ils aiment bien quand ça commence par une lettre de l'alphabet. Voilà, ça, c'est un petit partage pour notre connaissance générale. Tout est à sa place. En tout cas, rappelez-vous, quand vous ouvrez la Bible, que tout est à sa place aussi. Quelle que soit la forme poétique, il y a des livres historiques, il y a des livres poétiques, il y a des livres de sagesse. Par exemple, les proverbes. Qu'est-ce que c'est les proverbes ? Est-ce que vous lisez souvent les proverbes ? Allez-y. Allez-y, parce que les proverbes, c'est simple, c'est imagé, c'est des sentences. Si vous voulez être sûr de rester sur le chemin, Dieu va vous montrer sans arrêt des choses sur ce que vous avez à faire au niveau social, au niveau relationnel, au niveau de la direction de votre vie. Les proverbes, c'est une phrase. Un exemple, même pour la foi que j'ai placée dans le Seigneur a utilisé les proverbes sur la paresse. Alors là encore, il y a des choses où on rigole un peu, à la paresse. Et même moi, quand je racontais ça à Paris, à chaque fois, je disais, ouais, nous, à Marseille, c'est pas un péché, la paresse, c'est plutôt un art. Enfin, on est très. Vous voyez ? Je plaisantais, bien sûr. Mais sachez que dans la Bible, il y a 36 versets sur la paresse. Sachez que dans les proverbes, il y en a 28. Alors nous, on emploie des mots, procrastination et tout ce que vous voulez, mais des fois, c'est vrai. Des fois, c'est prioriser aussi. Des fois, c'est savoir se reposer. On n'est pas là à dire, il faut toujours courir. C'est pas vrai, on peut s'épuiser. Mais la paresse, c'est autre chose. Et là, je vous lis juste un verset que le Seigneur a utilisé à l'époque pour me convaincre du péché. C'est le Proverbe 26, versets 13 à 16. C'est très imagé. C'est un peu presque, j'ose dire, excusez-moi, à l'africaine. Le paresseux dit, il y a un lion sur les chemins. Il y a un lion dans les rues. Première image. C'est-à-dire le paresseux qui dit ça. Après, on réfléchit un peu, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je ne prends pas de risque, moi. Hein ? je reste à la maison, je commence rien, comme ça, pas d'échec. C'est trop dur, il y a des dangers, alors je ne vais pas m'engager. Les gens qui ont un esprit d'entreprise, d'autres ils disent, oh, moi je préfère être à mon petit boulot, payer salaire, je me mouille pas, je prends pas de risque. Bon, la porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Pas besoin d'explication. Ok. Ça, je l'aime bien. Ça, c'était un peu moins. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à la bouche. On entreprend, il y a des choses bien à faire et puis on laisse tomber. Non, c'est pénible, c'est fatigant. Hein, franchement, la vie chrétienne, j'ai commencé, mais non, c'est pénible de... Je voulais bien au début, on m'a dit « Jésus, il est merveilleux, il va me sauver, il m'aide, il est avec moi, il pourvoit toutes mes... » Tout à l'heure, tout ce qui fait lui réussit, on aime bien ça. On dit « Oh ben si je lis la Bible un chapitre par jour, tout ce que je vais faire me réussit. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais ce que Dieu me demande de faire, oui, quelque part ça réussira, même si je ne vois pas le fruit tout de suite, même... Mais si je fais n'importe quoi de ma vie, ce n'est pas d'avoir lu un chapitre par jour que je vais fonder une entreprise et que je vais être millionnaire. Rien à voir. Donc tout ce qui fait lui réussir, nous ne nous trompons pas. Marchons dans la volonté de Dieu et faisons-lui confiance que c'est utile, travaillant de mieux en mieux. Quoi ? À l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc regardez, vous avez fait en 3 mois, là je parle aux chrétiens de l'Église, hein, en 3 mois, vous avez rénové tout ce qu'il fallait rénover. Vous n'avez pas pris la truelle, vous avez un budget. Mais quoi qu'il en soit, ça a été fait. Rappelez-vous, il y a 3 mois, quand on a pensé à ça, il faut refaire. Alors, moi, j'étais à l'époque... Il faut refaire la façade, il faut enlever les lambeaux du rideau, machin. En bas, ça sent un peu trop le renfermé. Et il faut faire tout ça, c'est dans 3 mois l'expo. Eh bien, le premier jour où on est arrivé avec l'expo, il ne restait plus qu'à faire enlever la poussière et le lendemain, l'expo était montée. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas bien dans le Seigneur. Et ce qui est la suite, c'est aussi travaillant à l'œuvre du Seigneur. Après, parler aux gens, inviter les gens, faire les conférences, faire les repas. Tout ce qui a été fait pour que nous, on mange sans aller au restaurant, ben c'était super, on s'est régalé. Teriyaki, gratin de courgettes, tous les jours. Ben comme ça, on n'a pas eu besoin de sortir, on était là pour accueillir les gens. Merci Seigneur. Voilà. Donc, et je termine avec le dernier verset sur la paresse. Le paresseux, attention, hein, le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répondent avec bon sens. Celui qui les mène dans les poches va vous dire « Oh les gars, ça sert à rien tout ça. Pourquoi vous vous agitez de l'activisme ? Mais non, Dieu peut faire tout ça sans nous. » Et pourtant, Dieu nous dit de travailler. Pourquoi il nous demande de travailler s'il peut le faire sans nous ? Oui, il peut le faire sans nous, mais il a décidé de nous faire travailler. Parce que c'est bon pour nous, parce que c'est un précieux trésor que l'activité. Parce qu'on a besoin d'être actif. Et chaque fois qu'on met les mains dans les poches et qu'on dit « Oh, ben, ça ne sert à rien. Pourquoi on va distribuer des invitations ? Pourquoi on va faire une librairie ? Pourquoi on va se réunir ? Les gens ne restent pas ou je ne sais pas quoi. Enfin, pourquoi ? Parce que Dieu l'a dit. Et on se croit plus sage que tous ceux qui courent partout, qui distribuent. Nos deux jeunes filles, la Myriam et Laetitia, vous ressortiez à 11h du soir, ils étaient encore en train de parler dans la rue avec des gens. Mais non, mais Dieu peut leur parler. Moi, je prie dans mon fauteuil, avec une petite musique. Alors, c'est quoi la sagesse ? La sagesse du monde ? C'est souvent une question de connaissance, on dit... Beaucoup de sagesse. Il a une bibliothèque avec 125 livres. Dieu dit la sagesse, c'est savoir se comporter selon ce qui est sage. Il y a des surprises aussi dans les proverbes. Vous savez que on dit Dieu, il n'a pas de fils. Beaucoup de religions disent Dieu, il n'a pas de fils. Et ça, on se dit, c'est les chrétiens qui ont inventé ça. Dans les Proverbes, chapitre 30, verset 4, dans les Proverbes, Ancien Testament, livre de sentence, qui est monté aux cieux ? Qui en est descendu ? Qui a recueilli le vent dans ses mains ? Qui a serré les eaux dans son vêtement ? Qui a fait paraître les extrémités de la terre ? Ben là, on se dit, c'est Dieu, ça. Oui, mais Dieu, ce n'est pas son nom. Quel est son nom ? Son nom, c'est le tétragramme, c'est Jéhovah, c'est Yahweh, Yeshua. Quel est son nom ? Et surtout, dans les Proverbes, dans l'Ancien Testament, quel est le nom de son fils ? Pourquoi il y aurait cette question ? Quel est le nom de son fils ? Pourquoi dans les Proverbes, Dieu a dit quel est le nom de celui qui est le Créateur et quel est le nom de son fils ? Le sais-tu ? Tu parles de sagesse et de connaissance. Sais-tu quel est le nom du Fils de Dieu ? Tu dis, mais non, Dieu n'a pas de fils. D'abord, Dieu n'existe pas. Dieu existe et il a un fils. Dès les Proverbes, c'est établi. Et on verra cet après-midi plein d'autres versets qui vont dans ce sens dans l'Ancien Testament. Encore une dernière chose sur Dieu et pour la vie. Parce que là, on a vu le Dieu qui nous aide dans la vie. Mais rappelons-nous, Dieu est pour la vie. Il aime la vie. Il ne veut pas la mort. On peut se poser plein de questions philosophiques, mais moi, je veux juste savoir ce que déjà ce que les gens veulent. Ézéchiel, chapitre 33, verset 11, Dieu dit, « Dis-leur, je suis vivant. » Donc, Dieu est vivant. « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, donc son nom. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. » On a vu peut-être des choses culpabilisantes dans tout ce que je dis. Peut-être si vous êtes un paresseux, vous dites, « Oh là là, je n'ai pas besoin d'entendre ça. » Mais le méchant ne veut pas qu'on meure. Pardon, Dieu ne veut pas que le méchant meure. Ce qu'il veut, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Dieu veut notre bien, il veut notre vie. Et il dit, revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous ? Là, il parle à Israël, maison d'Israël. Le mot revenez, en hébreu, c'est le mot conversion. Il faut se convertir. Dans le Nouveau Testament, ce mot-là est repris. Vous vous êtes convertis de vos vaines idoles que vous aviez autrefois. C'est-à-dire, au ski, c'est quoi la conversion ? Allez, c'est qu'on va on est dans une direction, il faut changer à l'opposé, pas à moitié, sinon vous descendez dans la pente, à l'opposé, dans l'autre sens. C'est ça la conversion. Vous marchiez dans une mauvaise direction, une vie qui était livrée à telle ou telle mauvaise chose, ben, il faut accepter l'idée que ce n'est pas à peu près comme tout à l'heure le chemin, ce n'est pas aller un peu plus à gauche. C'est revenir en arrière, revenir, c'est la conversion, et revenir à la parole de Dieu. Alors je termine avec la dernière idée. Je sais que c'est un peu long, mais c'est une conférence. Donc c'est un peu pour ça que je suis là. Alors autorisez-moi à être encore quelques minutes à vous garder assis. Une parole qui donne la vie. On a vu qu'elle nous aide pour la vie, mais en quoi la Bible donne la vie ? Déjà, la vie, ce n'est pas la vie biologique, c'est la vie tsoé, la vie spirituelle, la vie éternelle. C'est un livre qui donne la vie spirituelle, on est bien d'accord. C'est pas en mangeant ça que d'un coup vous allez avoir un bébé. Donc, c'est donner la vie spirituelle. Comment recevoir une vie spirituelle ? Comment, si on est comme on est, on aimerait s'améliorer ? J'ai écrit, moi, dans mon agenda en 1991, est-ce que Jésus peut changer un pécheur ? Je voulais une vie changée. Comment j'y arrive à changer ? C'est bien beau de me dire ce qu'il faut faire. Vous me montrez ce qu'il faut faire au foot aujourd'hui. Je ne peux plus le faire. Mon dos, mes jambes, et j'ai jamais été très bon, d'ailleurs. Donc, ce n'est pas de me le dire. Ce n'est pas un livre, un mode d'emploi qui nous aide. Il faut quelque chose qui nous change. Quand Jésus dit « Aime ton ennemi », quand moi j'ai la batte de baseball dans ma tête, « Aime ton ennemi », celui qui t'a fait la queue de poisson, celui qui jette des choses par la fenêtre, qui salisse ma ville, tout ce que vous voulez. Il faut une nouvelle vie. 1 Pierre 2:1-23 dit « Vous avez été régénéré ». Qu'est-ce que ça veut dire « régénéré » ? Genèse, il y a le mot « genèse » encore, « commencement ». Vous avez recommencé, vous avez eu un recommencement, vous avez eu une nouvelle naissance. Vous avez été régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous fait naître à cette vie nouvelle. C'est la parole, ne cherchez pas en vous-même. Moi j'ai cherché, je me disais, est-ce que je dois aller dans une caverne? Est-ce que je vais avoir une révélation? Je cherchais la grâce de Dieu. Mais finalement, ça a été en lisant la Bible que cette nouvelle naissance s'est faite. Pas un mode d'emploi, une vie que j'ai reçue en recevant la parole de Dieu. C'est une parole vivante, c'est une semence. Donc chaque fois, tout incroyant qu'on est, qu'on lit, on donne une chance à Dieu de nous faire changer de vie. Il y a eu un homme religieux, Nicodème, qui est venu voir Jésus de nuit et qui voulait parler avec lui, juste pour parler de religion. Et Jésus lui a dit, hop, on arrête les discussions sur la religion et tout ça. Il a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Ce qu'il me raconte, un être de nouveau. Donc, il raisonne comme un être humain, comme nous. Est-ce que je dois entrer à nouveau dans le ventre de ma mère et ressortir? Non, non. Il faut que tu naisses d'en haut. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Et Jésus lui répond, mais quoi? Toi, tu es un docteur d'Israël, c'est-à-dire tu sais tout ce qu'il y a dans la Bible et tu ne connais pas ça? Ben non, Nicodème ne connaissait pas. C'était un enseignant qui ne connaissait pas qu'il fallait naître d'en haut. Alors finalement, il dit, comment cela se fera? Comment je vais naître d'en haut? Et la réponse de Jésus est étonnante. Comme Moïse a élevé un serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Quel rapport avec une nouvelle naissance? Il continue en disant, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quand on se demande comment on va naître de nouveau, il nous donne une illustration, une histoire de l'Ancien Testament. Dans le désert, les Juifs murmuraient, ils n'étaient pas contents, ils boudaient, ils voulaient plus, ils voulaient autre chose, jamais contents de ce qu'ils avaient. Alors Dieu a envoyé des serpents brûlants. Quand ils étaient mordus, ils mouraient. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Vous voulez vivre dans le péché, vous allez mourir. On meurt une seule fois, après quoi vient le jugement. D'accord. Mais Moïse dit, mais je ne veux pas que le peuple meure. Et Dieu dit, bon, tu vas faire un serpent en airain, tu vas le mettre sur un pieu, tu vas l'élever, et tous ceux qui regarderont à ce serpent seront guéris. C'était ça la solution. Nous, on dirait, ben non, il faut tuer tous les serpents, mais non, il faut fuir les serpents. Non, il a dit, tu fais ça, et ceux qui regardent seront guéris. Ils ne mourront pas. Et là, Dieu vient nous dire que ça, c'est une image de Jésus-Christ qui a été fait. Le serpent, c'était le mal. Et c'est pourtant par une image du mal qu'on est guéri. Comment c'est possible? Bon. On pourrait faire une analogie avec les vaccins, c'est un peu de... C'est pas ça. Christ a porté nos péchés sur lui, il a été fait péché quand il était à la croix. Il est littéralement devenu péché pour nous. Et le Père a vu le serpent et il a tué, il a frappé de sa colère. Mais il a, au même moment, pris nos péchés sur lui pour que Dieu n'ait plus à punir le péché puisque c'était déjà fait. C'est pour ça qu'après, il dit... Ceux qui ont compris ça, que Christ a porté et est mort pour leur péché, ceux-là peuvent avoir la vie éternelle. Voilà. Conclusion. Il y a quelques mois, on faisait une expo Bible, et même le petit jeune homme peut écouter, parce que c'était un petit jeune homme de son âge, et une petite jeune fille qui était là, et qui ont regardé le tabernacle, comme toi tout à l'heure. Ils étaient là, peut-être plus petits que toi. Toi, tu as quel âge? 8. Eux, ils devaient avoir 7. 6 et 7. Un petit garçon et une petite fille. Je leur ai expliqué le tabernacle, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, l'agneau et tout ça. À la fin, le petit garçon dit, mais c'est n'importe quoi, ça. Et à la fois, je le comprends. Mais la petite fille dit, mais non, tu n'as pas compris que Jésus-Christ, il est tout. Deux enfants qui arrivaient à peu près le même âge, il y en a un qui, n'importe quoi. Et l'autre qui dit, mais non, j'ai compris. Elle a compris que Jésus-Christ est la solution, il est tout. Et vous savez quoi? C'est pareil aujourd'hui chez les adultes. Après avoir entendu ce qu'on a entendu, on peut se dire, allez, au fond de vous-même, dans votre cœur, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui, là? Ou alors vous dites, ah, quand même, Dieu m'a ouvert les yeux et je sais que Christ est tout. C'est lui dont j'ai besoin. Et c'est ça la conclusion. Si on reçoit la parole comme la parole de Dieu, elle agit. Si vous êtes encore à dire, c'est n'importe quoi, elle restera totalement hermétique, inutile, sans effet. Il faut la foi. C'est exactement ce que dit Thessaloniciens. Il faut la recevoir comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. On va baisser les yeux et on va prier, tout simplement, si vous voulez bien. Vous n'êtes pas obligé, mais je vous propose ça. Seigneur, je te remercie de ta parole qui est vivante, qui peut faire s'abattre toutes les résistances. Peut-être on se croit intelligent et on est obligé de reconnaître qu'on ne sait pas. Comme le disait Jean Gabin, je sais, et puis en fait on ne sait rien, presque rien. Et enfant, jeune, homme, femme, âgé, tout le monde croit tout savoir déjà, je sais. Mais Seigneur, dans ta grâce, tu veux nous montrer qui nous sommes vraiment. Et je te prie que tu révèles à nos cœurs la croix, ton œuvre en Jésus-Christ. Je te le prie, si quelqu'un maintenant fait dans son cœur, fait cette prière aussi de demander pardon pour ses péchés dans son cœur. Faites-le, c'est entre vous et Dieu. Si vous croyez peut-être maintenant, peut-être pas parfaitement, mais que vous voulez croire, demandez à Dieu, viens au secours de mon incrédulité, viens à de moi. Et s'il n'est pas vrai, il n'y aura rien. Et s'il est vrai, eh bien vous verrez, vous expérimenterez le rocher. Faites cette prière dans votre cœur, je laisse quelques secondes pour ça. C'est entre vous et Dieu, ce n'est pas devant les hommes. Le Seigneur Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors venez à lui, par la prière, maintenant. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu sauves les pécheurs et que tu m'as sauvé, et que tu sauves tous ceux qui viennent à toi, qui sont prêts à changer de vie, qui reconnaissent la vanité, la folie de leur propre vie. Merci de cela, en Jésus-Christ. Amen.